Chapitre 58. Le monstre. Les sept soldats étaient parvenus à se déplacer, toujours en rang serré, et à se positionner devant le pavillon du rocher pour en interdire l'accès. Leur tactique était simple, ne pas essayer d'attaquer Akan, encore moins de l'immobiliser, ni même de le désarmer. Le géant se battait comme un lion. Leur stratégie consistait simplement à se poster devant la porte et à lui en interdire l'accès. Si l'un d'eux tombait, un autre prenait sa place. Si l'autre tombait, le premier avait eu le temps de se relever. Akan se fatiguerait le premier. Le savant maigre qui se battait à côté de lui n'était pas dangereux.
« T'acharne pas, Akan !» cria Diana. « On a des ordres clairs. Gardez le prisonnier. Pourquoi veux-tu à tout prix libérer un gamin débile capable d'étrangler un chien ?»« Ce n'est pas un gamin débile !»
hurla Solario en se précipitant vers elle. Diana prit appui sur ses longues jambes et repoussa le ministre d'un simple mouvement de bras. La stratégie des gardes fonctionnait. Les minutes s'écoulaient. Les soldats, chaque fois qu'Akan les écartait, se relevaient. Le géant, malgré sa rage et sa hargne, faiblissait. Ils étaient trop nombreux. Ils n'y arriveraient pas ainsi. Tant pis. Il lâcha d'un coup son beau et fonça tel un taureau. Les gardes crurent un instant qu'il espérait défoncer la porte de bois à la simple force de ses épaules, mais ils se trompaient. Le géant attrapa Django par la taille, le souleva tel un sac de paille et s'éloigna en courant vers le torrent, la cascade et le lac. Il jeta Django à l'eau, presque au milieu de l'étang, là où il était le plus profond. Édin. Akan retournait déjà vers le pavillon, sans un regard pour Django qui barbotait dans l'eau en beuglant de rage.
« À qui le tour ?» cria le secrétaire général de la paix. « Vous voulez tous prendre un bain ?»
Il dévisagea une à une les figures terrifiées des six gardes.
« On arrête de jouer maintenant, Akan !» lança une voix dans son dos.
La voix de Jeanne d'Arc. Akan se retourna. Le ministre des Punitions se tenait debout sur la passerelle de bois, en contrebas du grand rocher, et pointait vers lui une arbalète, fermement calée dans sa main droite.
« Tu n'oserais pas tirer !»
le défia le géant. Jeanne d'Arc ne tremblait pas.
« J'ai beaucoup de respect pour toi, tu le sais, comme j'espère que tu en as pour moi, mais je n'hésiterai pas. Ce gamin prématuré a eu droit à un procès équitable. On ne va pas le tuer, on va juste l'exiler. » « Je suis responsable de la sécurité de nos deux tribus !»
Akan resta immobile, tous ses muscles bandés tel un colosse sculpté dans la même roche noire que celle du rocher.
« Et moi » répliqua-t-il d'une voix assurée. « Je suis responsable de la paix. Tôt ou tard, nous devrons discuter avec les Prémas. Je refuse de commencer le dialogue entre eux et nous en abandonnant l'un des leurs comme on noie un chat !»
L'argument parut troubler Jeanne d'Arc. Mais son arbalète ne bougea pas pour autant.
Même si tu avais raison, Akan, ça ne changerait rien. Tu me connais, je suis un soldat, j'obéis aux ordres.
Même si les ordres sont de me tuer.
Je viserai ta jambe si tu bouges, ça suffira.
Tu n'oseras pas.
Akan s'avança en direction du rocher et s'arrêta sur la passerelle 5 mètres devant le ministre des Punitions. La plupart des soldats le suivirent pour le bloquer. Jeanne d'Arc crispa son doigt sur la détente de l'arbalète. Un pas de plus, et il tirait.
« Non !»
Une ombre noire plana au-dessus de la falaise. Elle s'abattit soudain sur Jeanne d'Arc et entraîna Akan dans sa chute, puis les 3 autres soldats qui les avaient rejoints. Tous basculèrent dans l'eau grise du lac. L'ombre noire agitait ses bras comme des ailes. Tous reconnurent Agnel.
Encore raté !
Fit l'ado en se redressant sur une jambe, tel un échassier.
Vous croyez qu'un jour j'arriverai à m'envoler ?
Ses moulinets éclaboussaient tous les ados qui pataugeaient. Jeanne d'Arc hésitait entre colère et rire. Il n'avait pas lâché son arme, mais la tenait maintenant pointée vers la surface de l'étang, comme s'il cherchait à pêcher des poissons au harpon. Diana et Idriss tendaient la main aux autres pour les sortir du lac. Akan refusait toute aide, poing serré.
Chef, chef !
Cria soudain Noélie, l'une des seules soldats restées loin de la berge. Elle désigna derrière lui la porte ouverte du pavillon du rocher. Tous, dans la fureur du combat, avaient oublié Solario. Le savant s'était glissé dans le dos des gardes, avait ouvert la porte de bois et s'était faufilé à l'intérieur. Il y était toujours, se rassurèrent les soldats. Impossible qu'il soit sorti par la porte avec l'enfant prématuré, il l'aurait forcément repéré. Par quelle autre issue Solario et Pou auraient-ils pu s'échapper? Eux non plus ne savaient pas voler.
Qu'on vote! Qu'on vote!
Continuaient de scander les ados dans l'orangerie. Des pieds martelaient le sol, des chaises raclaient les pavés de marbre. Tous les objets disponibles, chaussures, ceintures, bijoux, sacs à dos, bottes, étaient utilisés pour faire le plus de bruit possible. On aurait presque cru un concert de New World. Liu balbutia des mots incompréhensibles, puis quitta dans la cohue le centre des cercles de chaises et alla s'asseoir à côté de Lunella, au milieu des Lolly Girls, qui avaient arraché de nouvelles feuilles d'oranger et de citronnier pour s'éventer. Un parfum d'agrumes flottait. Il était vraiment temps qu'on passe au vote, où il ne resterait bientôt plus rien à cueillir aux branches des arbres fruitiers patiemment entretenus par Vanille. Isalis discutait avec un petit cercle de singes, composé d'Olympe, Minerva, Soutim et Donatello, les ados les plus snobs du château. Tous prenaient un air pincé et détaché, comme si le piaillement du peuple ne les intéressait plus. Augénor se tenait seul, au premier rang. Il avait perdu la partie, mais cela semblait le laisser étrangement indifférent. Mordelia était assise près de lui, elle aussi perdue dans ses pensées. Pendant toute la controverse, pas une fois, elle n'avait manifesté la moindre réaction, à l'exception du bref moment où Bill s'était exprimé. Vanille enfin se leva, le visage fermé. Des rides de colère la défiguraient. Dans son tailleur couleur souris et avec ses jambes enfermées dans un filet gris, elle paraissait avoir le double de son âge. Elle observait avec la même fureur les orateurs qui s'étaient affrontés. Sabie et Isalis, Augénor et Valère. La ministre du jour et de la nuit, déléguée au grand contrôle, avait détesté les arguments de Sabie. Elle avait eu envie de hurler quand la Lolly Girl avait affirmé que ceux du château considéraient ceux du tipi comme des êtres inférieurs. Mais elle avait tout autant détesté qu'Augénor ou Isalis ne protestent pas. Elle avait détesté que presque toute la salle admette ce constat comme s'il allait de soi, comme si tous ceux qui avaient dormi au tipi avec elle pendant des années acceptaient ce statut d'enfant sauvage domestiqué. Tout ce qu'elle avait construit dans sa vie, depuis qu'elle était née, s'opposait à ça. On se fichait de la tribu dans laquelle on naissait. Une seule chose comptait, avoir de l'ambition, du talent, du courage et s'élever. Elle avait cru qu'Augénor se fichait lui aussi qu'elle soit originaire du tipi. Elle espérait toujours qu'il s'en fichait, qu'il ne voyait en elle qu'une ado digne de confiance à qui on pouvait laisser les clés d'une communauté, celle des deux tribus réunies.
« Je pense que chacun a pu s'exprimer, » fit Vanille d'une voix froide. « Je regrette d'écourter une si belle fête, mais je propose qu'on passe au vote. »« Des enfants, c'est pas trop tôt, on a soif !»
jaillirent de tous les côtés.
« Je vous rappelle, » continua Vanille d'un même ton monocorde, « que nous devons répondre à la question suivante. » Les enfants prématurés sont-ils des êtres humains normaux? Que ceux qui pensent oui lèvent la main?
Déjà, une forêt de bras se dressait. Vanille commença à les compter. Les oui l'emportaient à une large majorité. Plus de 2 mains levées sur 3. La controverse de l'orangerie, proposée par Augénor, s'achevait par le triomphe des idées d'Alix, de Zizo et de tous leurs partisans. L'autorité du grand cerf, à l'inverse, en ressortait fragilisée. Augénor s'était personnellement impliqué dans ce débat et avait été désavoué par la majorité. Les élections, dans quelques jours, confirmeraient forcément Alix comme reine, Liu, Solario et Agnel comme ministre, Akan comme secrétaire général de la paix. L'apprenti dictateur avait échoué. Sabie adressa un clin d'œil à Valère, puis aux Lolly Girls qui venaient d'entrer le plus discrètement possible par la porte de droite, cheveux ébouriffés, large sourire aux lèvres. Alix et Zizo les suivaient, eux aussi radieux. Ils avaient réussi. Sabie, fière, repensa aux heures d'entraînement en secret, aux fous rires sur les tatamis dans l'aile du midi, à leur joyeux délire quand les Lolly Girls se qualifiaient elles-mêmes de mousquetaires de la reine. Elle échangea un long regard avec chacune d'entre elles. Et Steve, ses longs cheveux blonds décoiffés, tels ceux d'un épouvantail après un orage d'été. Cheyenne, plus indienne que jamais dans sa courte robe à franges. Suzette, redevenue pipelette devant un auditoire de garçons subjugués. Leonarda et ses grands yeux ronds un peu absents, comme si le monde n'était qu'un tableau vivant. Lunella et ses couettes longues comme des antennes, aussi agitées que des queues de chat énervées. Lunella, qui se tenait debout devant sa chaise, les yeux étrangement dilatés. Lunella, qui titubait. Lunella, qui tremblait, prise d'une soudaine crise de tétanie. Lunella, qui s'effondra, jambes sciées, retenue in extremis par ses trois amis. Lunella, qui, comme prise de folie, dans les bras de Leonarda, poussa sous la verrière le plus terrifiant des cris. Un cri qui glaça d'effroi tous les ados dans l'orangerie. Ce n'était pas un cri de peur, c'était un hurlement à la mort. L'orangerie se vida d'un coup. Alix et Zizo furent les premiers à sortir et à courir en direction du Trianon. Ils avaient immédiatement compris ce que le cri de Lunella signifiait. Solario était en danger. Eux seuls savaient où il se trouvait. Il remontait aussi vite qu'il le pouvait l'allée du manège. Sabi suivait, soutenant Lunella, et toutes les autres Lolly Girls les accompagnaient, sans comprendre où ils allaient. La plupart des ados suivaient le mouvement de foule, devinant simplement qu'un drame était en train de se jouer. Ils furent plus d'une centaine à longer le grand canal, à passer devant le Trianon, à se rassembler devant le pavillon du rocher et à s'arrêter en arc de cercle devant la porte ouverte. À Cannes, Agnel et Jean d'Arc se tenaient debout devant le pavillon, immobiles, comme si une force magique les empêchait d'y entrer. Lunella s'avança, encadrée de Sabi, Alix et Zizo. Les visages d'Akane et de Jean d'Arc exprimaient une terrible gravité. Les adolescents semblaient avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Celui d'Agnel était invisible, caché entre ses deux mains. Des larmes coulaient entre ses doigts. Lunella entra dans le pavillon du rocher. Il était baigné d'une douce lumière tamisée, filtrée par les fentes des volets fermés. Sabi, Alix et Zizo se tenaient derrière elle, au seuil de la porte, silencieux. On aurait pu croire que Solario dormait, la tête posée sur les genoux de Pou.
« Oro !»
répétait doucement l'enfant prématuré.
« Oro !» Oro.
On aurait pu croire que Pou le caressait, ses longs doigts épousant les courbes de sa peau, de sa nuque à la naissance de sa gorge, juste sous son menton, enroulé en étau.
Oro. Oro.
Les doigts de Pou ne le caressaient pas. Solario ne dormait pas. L'enfant prématuré l'avait étranglé. Ses ongles s'enfonçaient encore dans la chair violacée de l'adolescent, serrés jusqu'au sang. Des veines bleues avaient explosé, les paumes du prématuré en étaient maculées.
Oro! Oro!
Solario était mort, étouffé par cet enfant qu'il avait tant protégé. Il n'y avait aucun doute cette fois. Ni sur la victime, ni sur le coupable. Personne d'autre que Solario n'était entré dans cette prison vide. Personne n'en était sorti. Pou l'avait assassiné. Froidement. De ses propres mains. Pourquoi ? Pourquoi avoir étranglé celui qui venait le sauver ? Celui qui, depuis des mois, l'avait nourri, soigné. Celui qui lui avait appris à parler, à compter, à rire. À aimer ? Pourquoi ? Par simple folie ? Parce qu'Ogénor avait raison, les Prémas n'étaient pas des enfants normaux, juste des animaux dangereux, qu'on ne peut jamais totalement apprivoiser, qui, un jour ou l'autre, mordront la main qui les nourrit, qui se retourneront contre leur maître, sauf si celui-ci s'arme d'un fouet. Pourquoi ? Pourquoi ? Suffoquait Lunella. Personne n'osait s'approcher du meurtrier. Jean d'Arc entra à son tour dans le pavillon, escorté de Django et d'Idriss. Il se tourna avec calme en direction de Lunella.
« On va emmener ce salaud ailleurs pour que tu puisses serrer ton frère dans tes bras. »
Il pointa son arbalète sur Pou.
Reculez ! On ne sait pas quel coup tordu nous réserve encore ce monstre !
Pourtant, Pou avait compris et se leva sans résister. Il laissa ses doigts d'étrangleur filer le long des cheveux blonds de Solario, puis le long de son bras, jusqu'à sa main où il glissa la montre qu'il tenait dans la sienne.
« Royac ! Royac ! » !»«
Suis-moi, » ordonna Jeanne d'Arc, son arbalète toujours pointée sur la poitrine du prématuré.
Le préma sortit sans résister, sans même sembler comprendre ce qu'on lui reprochait. Un instant, Zizo crut que Jeanne d'Arc allait abattre Pou sur place, devant tous les autres ados, sans aucune autre forme de procès, tel un chien enragé. Jeanne d'Arc paraissait hésiter. Le préma, lui, n'hésita pas. Dès qu'il franchit la porte, Pou se mit à courir, brusquement, comme un fou, en direction du grand rocher. Le cercle des ados qui observaient la scène s'écarta, prudent et inquiet, pour le laisser passer. Jeanne d'Arc levait déjà son arme. À cette distance, il ne pouvait pas le rater. Pou ne franchit pas le torrent. Il ne traversa pas non plus la passerelle de bois. Il continua tout droit vers le haut de la falaise, sans ralentir. 200 paires d'yeux épiaient chacun de ses pas. Pou ne ralentit pas davantage quand il atteignit le sommet du rocher. Pou ne ralentit pas quand ses pieds s'approchèrent du bord de la falaise. Pou ne ralentit pas quand il se jeta dans le vide. Il se contenta de crier une dernière fois.
« Roar, zo, zo, zo !»
Il agita un peu les bras, puis tomba comme une masse et s'écrasa 15 mètres plus bas. Mort sur le coup. Mort. Comme tout espoir. Mort. Comme l'enfance de tous les ados qui observaient son cadavre désarticulé.